dans ma petite histoire de l'interprétation, grand B, c'était petit c, quelle valeur accorder encore aujourd'hui à ce que dit la Bible ? Alors, vous voyez, quand on a lu les deux livres là, on se dit... Alors justement, hier, j'ai posé la question à Henri de Villefranche, qui est le bibliste parisien, et il dit le problème de Finkelstein, là, qui remet quasiment tout en cause, c'est que c'est un archéologue. Et les archéologues ne sont pas des biblistes au sens où ils ne sont pas non plus des philologues, etc. etc. Et qu'il y a quand même beaucoup d'éléments que l'archéologie ne peut pas non plus dire de manière apodictique. Il y a quand même une pluralité de sciences à faire converger, et puis donc l'archéologie n'a pas toujours le dernier mot. Alors, il paraît qu'il y a eu un article, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ? Il a dit, oui, Jacques Briand, mais qui est mort depuis, avait fait un article pour dire ce qu'il pensait de ses livres, où il y a des éléments qui sont très justes, hein, mais disons, vous savez, quand c'est partiel, c'est partiel un peu. Hein, donc, ça déséquilibre l'ensemble.
Oui, parce que c'est vu uniquement sur le plan archéologique.
C'est ça. Je vous les rends. Mais merci, ça m'a bien intéressé. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? C'est donc la question qui se pose au vu de ces multiples réinterprétations depuis le siècle des Lumières, en gros. Et habituellement, on répondait par un silence embarrassé. On avait beau dire que la Bible était un livre à nul autre comparable. Et pourtant, chaque nouvelle découverte des sciences bibliques, elle perdait un peu de son prestige et de son autorité. Et certains finirent par proclamer tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Et ça a été la crise moderniste, hein, au début du XXe siècle. Et on dira, la Bible n'est rien d'autre qu'un ensemble d'écrits de circonstances, une sorte de monument littéraire dépassé. Et ce qu'avait dit les gnostiques à propos de l'Ancien Testament, eh bien, a été étendu à toute la Bible. Et on peut dire que Spinoza, qui était le premier quasiment à rentrer dedans, avait triomphé. Alors, il ne fallait pas tellement s'en étonner, parce que l'exégèse libérale, historico-critique, arrive en effet à une complète déconstruction du texte. On distingue des couches successives, des apports, et on part à la recherche d'un noyau primitif, ce que les Allemands appellent « Urtext », hein, le texte primitif, qui évidemment ne cesse de s'amenuiser à mesure qu'on découvre des épaisseurs. Vous voyez, c'est comme peler un oignon. Et alors, quand vous avez fini de peler l'oignon, ben vous allez, il ne vous reste plus rien. Or, c'est vrai, la Bible, pour l'essentiel, est faite de récits. Elle se veut historique, mais à sa manière, qui n'est pas la manière précisément de l'histoire du XIXe siècle. Une exégèse qui aboutit à l'évanescence quasiment complète du fondement historique réduit la Bible à n'être plus qu'un mythe, c'est-à-dire une idée qu'on va habiller de récits apparemment historiques. Autrement dit, une construction littérale sans support réel. Vous voyez, c'est un peu, même pour le Nouveau Testament, on dira ça. On dit Jésus est ressuscité. En fait, si on retrouve son corps dans le tombeau, c'est pas gênant parce que ce qui compte, c'est que les gens aient eu conscience que ça avait changé leur vie. Mais quoi s'il n'est pas ressuscité ? L'auto-persuasion qu'il est ressuscité. Alors, vous voyez, on arrive à des absurdités de ce genre. Il y a un jésuite célèbre, et qui est pourtant un bon bibliste, qui avait fini par dire que si on retrouvait le corps de Jésus, ça n'empêcherait pas de croire en la résurrection. Alors, en tout cas, peut-être la nôtre à la fin, mais pas la sienne au début. Mm-hmm. Vous voyez, c'est un peu ennuyeux. Parce que la nôtre à la fin, elle est quand même fondée sur la sienne au début. Enfin, je pense.
Ça aurait pu l'incarnation.
Oui, presque. Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout se dire que, globalement, la résurrection, c'est plus la conviction qu'a la communauté primitive que quelque chose s'est passé sur la croix. Voilà.
et que en espérance, quoi. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu des manières de pouvoir répondre à toutes les objections, même les pires, en disant que ça ne nous touche pas. Ah, c'est comme si vous débarrassiez de votre corps et puis que vous fassiez perdre cette flèche. Évidemment, ça ne fera pas beaucoup d'effet, hein, parce que...
Mais c'était là, avec une bonne intention
Oui, c'était... Bon, oui. Ils ne savent plus trop. Alors, c'est-à-dire que, finalement... On a l'impression que tout s'effondre par petits morceaux. On se prépare, vous voyez, à se battre sur le dernier retranchement. Parce que en plus, les théories exégétiques n'arrêtent pas de se contredire aussi. Hein, ça, c'est le propre de toutes les recherches scientifiques. Et un jour, on dit par exemple que Matthieu dépend de Marc, hein, c'était la vieille théorie documentaire, là. Et puis une autre fois, on dit que c'est une transcription grecque d'un original araméen perdu. Et alors, qui croire ? Et que penser finalement de la Bible ? Est-ce que c'est une sorte de charbon ardent qu'il ne faut pas trop toucher parce qu'on ne sait plus quoi en penser ? Alors, vint Rudolf Bultmann. Dans les années 20-30. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, répond-il. On ne peut connaître le Jésus historique, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est le Christ de la foi. Le vrai Jésus n'est pas tant l'homme de Nazareth que la figure élaborée à partir de lui par ses disciples. Vous voyez ? On peut donc démythologiser sans crainte tous les textes qui concernent le Jésus historique, alors pour ceux qui doutent de la vérité des miracles, bon, etc. Et ça n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que la foi est un mythe, et ce qui compte, c'est de faire partager encore aujourd'hui, existentiellement, l'émotion des disciples d'alors. On est, Bultmann, c'est un peu le frère en exégèse de Heidegger en philosophie ou Karl Barth en théologie. C'est-à-dire, on est dans l'existentiel. Ce qui compte, c'est les faits. On pourrait dire, c'est un peu... après, on aura des théories qui s'appellent la Wirkungsgeschichte, c'est l'histoire des effets d'un texte. Alors, ce qui compte, c'est ce que le texte a produit, finalement. Ce que la première communauté a sous une certaine émotion de la disparition du Christ, a pondu le Nouveau Testament. Et puis le Nouveau Testament, finalement, en se présentant comme historique, a fini par persuader les générations suivantes que c'était vraiment vrai. Même d'ailleurs les disciples mêmes, parce que vous savez, ça arrive, ça. On raconte des blagues, enfin, on raconte une histoire dont on n'est pas très sûr. Puis à force de la raconter à des gens, on finit par se persuader soi-même qu'elle est vraie, à force de l'avoir répétée. Donc, on finit par penser ça, et puis après, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu des effets de cette auto-persuasion. Donc ça, c'était un peu l'idée de Bultmann. Alors, petit dé, crise de l'interprétation, la construction de Bultmann va éclater quelques décennies après, avec l'exégèse du milieu du siècle, c'est-à-dire 1950 à peu près. Alors, on va nous dire... que la foi est plurielle, qu'il y a la théologie de chaque auteur avec des correctifs rédactionnels. Alors le grand exégète allemand de cette époque, parce qu'à l'époque l'exégèse est toujours allemande, c'est Joachim Jeremias. Et donc c'est l'idée que le sens n'est rien d'autre que celui que l'on prête au texte une fois analysé. Donc c'est une opinion religieuse, un sens humain qui est inspiré par la foi subjective de l'auteur. Autrement dit, on a démonté le texte et on ne sait plus comment le remonter. Hein. Vous savez, c'est comme on démonte une montre et après on ne sait plus comment la remonter.
L'auteur, celui qui dit ça, est un prêtre ou pas ?
Non, c'est un luthérien.
Un luthérien.
Alors, en fait, on n'a pas compris que le sens était porté par les interprétations d'un fait historique, incontournable. Et il n'y a pas de sens, en fait. Le sens, il est toujours, bien sûr, l'interprétation. Il est toujours, il joue toujours dans le rapport avec ce que le lecteur ou l'auditeur veut bien lire ou entendre. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose à la base. Vous voyez ? Il faut qu'il y ait un fait. Alors, du coup, le progrès de cette exégèse historico-critique qui déconstruit, vous voyez, on est dans les années 50, c'est aussi les frères biblistes des théoriciens de la déconstruction en matière de philosophie et autres. Hein. Et alors, ça va s'accompagner du coup d'une réaction anti-scientifique violente, surtout dans les milieux protestants, piétistes et pentecôtistes, qu'on a qualifiés de fondamentalisme. C'est-à-dire, à force de dire qu'il faut toujours prendre le texte avec des pincettes et puis en humaniser la signification, on finit par dire, prenons le texte tel qu'il est, et avec toute sa rugosité, ses contradictions, et même, ce qui offense notre raison. Donc c'est, en même temps, donc le fondamentalisme consiste à tenir pour inspirer la lettre même du texte. Et c'est balayer d'un revers de main aussi tous les travaux exégétiques antérieurs. Autrement dit, on pourrait dire qu'à l'arianisme scripturaire des exégètes, la dissolution de la spécificité de la Bible dans un texte purement humain, hein, comme la réduction du Christ à n'être qu'un homme, à assumer par Dieu, mais pas Dieu, va répondre le monophysisme scripturaire des fondamentalistes, c'est-à-dire l'absorption de la dimension humaine dans le divin. C'est-à-dire, on va diviniser même la lettre pour les Bibles, comme dans le monophysisme, on absorbait la divinité de l'humanité du Christ dans sa divinité. On faisait de son humanité une sorte d'hologramme, en gros, de sa divinité. Alors, c'est une réaction qui, pour salutaire qu'elle soit, est quand même doublement malheureuse, parce qu'elle ne s'attache qu'au sens littéral, passant sous silence le sens spirituel, qui avait été, étudié pendant des siècles par les pères de l'Église et les auteurs du Moyen-Âge. Et elle refuse aussi de voir les problèmes réels que le sens littéral peut poser à la raison scientifique. Ça, c'est un peu l'attitude de l'autruche. Il n'y a pas de problème parce qu'on ne veut pas les voir. Alors, face à cela, il faudra attendre quand même des décennies pour que l'Église, comme l'Église avait réagi à un siècle d'exégèse des Lumières, d'exégèse au XIXe siècle, qui commence dans la deuxième moitié du XVIIIe et qui s'étend jusqu'à la fin du XIXe, essentiellement faite par des protestants, l'Église va réagir avec Saint Pilis et la fondation de l'Institut biblique pontifical, etc. Il faudra attendre les années 90 pour que la doctrine de la foi et la Commission théologique internationale arrivent à, faire le tri dans toutes ces théories exégétiques et se pose la question de la méthode. Alors, on va voir un petit peu l'interprétation dans l'Église catholique. Hein. Alors, tout d'abord, grand A, le rôle de l'Église à l'égard des Écritures. Alors, ça va être un petit peu des choses qu'on a déjà vues. La première idée, c'est qu'elle est gardienne du dépôt de la foi. Et deuxième idée, qu'elle est interprète authentique des Écritures. Petit A. Hein. Gardienne du dépôt de la foi et interprète authentique des Écritures. Donc l'Écriture ne peut jamais être isolée de la communauté dans laquelle elle est née et pour laquelle elle est faite. C'est ça l'idée. En définitive, et c'est la vieille idée de Tertullien, hein, dans son De prescriptione hereticorum. En définitive, à qui appartient l'Écriture? Qui peut apprivoiser les Écritures? Eh bien, réponse, celle qui a conçu les Écritures, celle qui a reçu la parole de Dieu. autrement dit l'Église. Et c'est ce que dit le Concile de Vatican II dans sa constitution sur la révélation divine, qui reprend celle du Concile de Vatican I, et qui a été en particulier rédigée par le théologien Joseph Ratzinger. Alors il disait ceci, enfin pas lui, mais enfin disons la constitution. Aussi la prédication apostolique, rapportée d'une façon spéciale dans les livres inspirés, devait-elle être conservée par une succession continuelle jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi les apôtres, en transmettant ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, avertissent les fidèles de garder les traditions qu'ils ont apprises, soit par leurs paroles, soit par leurs lettres, et de combattre pour la foi qui leur a été transmise une fois pour toutes. Ce qui a été transmis par les apôtres embrasse tout ce qui contribue à diriger saintement la vie du peuple de Dieu et à accroître sa foi. Ainsi l'Église, dans sa doctrine, sa vie et son culte, perpétue et transmet à toutes les générations tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Donc la Bible ne fait qu'un avec l'Église, vous voyez. Et en effet, le numéro 7 dit, dans cette constitution, « Pour que l'Évangile fût gardé à jamais intact et vivant dans l'Église, les apôtres ont laissé comme successeurs les évêques auxquels ils ont transmis leur propre charge d'enseignement. » La citation de saint Irénée au IIIe siècle. Donc, ce qui permettait aux premiers apôtres de vérifier ce qui était transmis parce qu'ils étaient les témoins oculaires, eh bien, par un charisme spécial de l'Esprit-Saint, c'est transmis à leurs successeurs, les évêques, qui ont la charge, justement, de vérifier la fidélité de ce qui est enseigné par rapport au support biblique. Voyez. Donc la vérité spirituelle plénière de l'Écriture passe plus par la bouche des évêques que par celle des scientifiques de l'exégèse. Si vous voulez, un exégète, c'est un petit peu comme un médecin légal. Il dissèque un cadavre. Tandis que un évêque, c'est un peu comme un médecin, il soigne un corps vivant. Moi, je dirais ça. Alors, le Concile dit encore, la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu écrite ou transmise a été confiée. Donc, écrite, c'est la Bible. Transmise, ce sont des traditions d'origine biblique. A été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, mais non pas au nom de la raison. Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque, en vertu de l'ordre divin et de l'assistance de l'Esprit-Saint, il écoute pieusement la parole, la garde religieusement, l'explique fidèlement, et puise dans cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il nous propose à croire comme étant divinement révélé. Donc, en fait, c'est le magistère qui est chargé de faire l'inventaire des richesses de la Bible selon les époques et les lieux. Donc on découvre toujours des choses nouvelles dans la Bible quand on est confronté à de nouveaux problèmes. Par exemple, l'écologie, tout le monde s'en fichait à une certaine époque. Bon, maintenant on s'aperçoit que la Bible a des choses à dire là-dessus. Mais avant, on ne se posait pas la question. Il y a plein d'autres points sur lesquels on ne se posait pas de questions. Quand la question se pose, c'est le rôle des évêques d'aller chercher dans la Bible qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse, mais comme réponse intelligente. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de citer un texte, de l'envoyer à la figure du contradicteur. Et donc, c'est en vertu de cette compréhension que l'Église a d'elle-même et de son rapport avec les Écritures que le magistère va intervenir dans le débat exégétique pour une meilleure intelligence de la Bible. Alors on va voir ça dans le petit B, donc les réactions du magistère de l'Église face à toute cette exégèse libérale, illibérale, souvent d'origine protestante, hein, faut pas se leurrer, hein, mais qui a métastasé dans l'Église catholique. Alors, ces réactions vont revêtir deux aspects. Le premier, c'est d'exhorter les exégètes catholiques au discernement, et cela pour une recherche de l'équilibre. Par exemple, en 1893, le pape Léon XIII, dans la lettre Providentissimus Deus, met en garde contre le rationalisme qui gagne l'exégèse même catholique. Il rappelle qu'il ne faut pas outrepasser les limites propres aux méthodes scientifiques et présenter comme vraies les conclusions, simplement des hypothèses, hein, ce qui ne reste qu'hypothétique. Il rappelle aussi que le sens plénier de la Bible est méta-scientifique. Il est donné par la tradition, il est donné par l'Église. En même temps, il exhorte les exégèses catholiques à pas faire non plus les autruches, mais à l'étude des langues anciennes, à l'acquisition de compétences techniques dans le domaine de la critique scientifique, pour rivaliser avec l'adversaire aussi sur son propre terrain. Alors, plus tard, 50 ans plus tard, Pie XII, dans la lettre Divino Afflante Spiritu, 1943, alors que les bombes tombent sur Rome, met en garde contre le fondamentalisme. Il dit qu'il n'y a pas de sens spirituel. Donc, vous voyez, c'est un petit peu symétrique. Hein. Léon XIII mettait en garde contre l'historicisme et symétriquement, Pie XII met en garde contre le fondamentalisme. Il dit « Il n'y a pas de sens spirituel qui serait à trouver ailleurs que dans le sens littéral. » Alors, ça veut dire que le sens spirituel, il est intrinsèquement lié au sens littéral, mais seulement il est dans la profondeur du sens littéral, hein, comme disait un des pères dont je vous parlais au début. Le sens littéral, c'est comme l'écorce de l'arbre, et le sens spirituel, eh bien, ce sont les strates de bois à l'intérieur jusqu'à la sève qui est au centre. Mais il n'y a pas de sève s'il n'y a pas d'écorce. Hein, donc il faut... Où il dit, c'est comme un autre père disait que c'est comme une noix où il y a la coque et puis il y a le fruit à l'intérieur. Mais il ne peut pas y avoir de fruit s'il n'y a pas de coque. Mais ce n'est pas à la coque qu'il faut s'arrêter, il faut casser la coque. C'est toute l'école d'Antioche qui dit ça. Il faut savoir casser la coque, c'est-à-dire savoir triturer le sens littéral pour accéder au sens spirituel. Donc Pie XII dit, c'est à l'exégèse scientifique que revient le soin de rechercher le sens littéral, et c'est à elle qu'incombe la charge d'établir les genres littéraires utilisés dans un texte pour découvrir le sens réel voulu par l'auteur. Mais bien sûr, le sens ultime dépend du magistère, interprète authentique de la tradition, et la tradition, c'est aussi la tradition qui est fournie par la prière des fidèles, le sens sensus fidelium, qui découvre dans tel ou tel texte, bah, par exemple, sa nourriture pour sa vie spirituelle. Hein. Quand il suffit de lire les écrits des saints pour voir à quel point un verset ou un passage... Regardez le Cantique des Cantiques. C'est devenu le fleuve, ça a alimenté le fleuve immense de la mystique depuis le bas Moyen-Âge, déjà depuis Origène, alors que, bon, comme texte... Bon, hein, voilà.
C'est dans quel document qu'il dit ça ?
Dans Divino Afflante Spiritu. C'est une lettre adressée aux exégètes de 1943. Alors, le second aspect le premier aspect, c'est l'exhortation au discernement. Second aspect de l'action du magistère, c'est de donner aux exégètes catholiques les moyens de leur recherche. Alors, Léon XIII, donc, déjà, va créer en 1902 la commission pontificale biblique, donc une commission de spécialistes, et son successeur, en 1909, va ériger l'Institut pontifical biblique, comme dans le domaine de la musique et de la liturgie, il avait créé l'Institut pontifical de musique sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est que cet institut pontifical biblique ? Eh bien, c'est un lieu d'évaluation et un lieu d'étude en matière de recherche biblique, mais du point de vue catholique. Donc, le magistère rappelle que le sens de l'Écriture se prend de la tradition vivante à l'intérieur de la foi, et il va ainsi poser les bases d'une saine herméneutique. Hein, la Bible peut être comme un cadavre que dissectent les sciences, y compris la philosophie, etc. Ce corps n'est vivant que si on le voit avec les yeux de la foi. Parce que finalement, la Bible a été écrite pour la foi, elle vient de la foi et elle va à la foi. Et c'est que dans la foi qu'on saisit vraiment son essence. Hein, c'est comme si vous montriez à un chat une palette de couleurs, lui, il verra que du blanc et du gris. Tandis que nous, on voit plein de couleurs. Le scientifique, il voit que du blanc et du gris, comme les chats. Alors, il voit peut-être plus profondément, il voit mieux dans la nuit, probablement, le blanc et le gris que nous, parce qu'il a plus d'instruments, etc., etc. Mais en somme, il s'intéresse qu'à l'écorce de l'arbre. Il passe à côté de tout ce qui est derrière. Parce que pour comprendre ce qu'il y a derrière, il faut la foi. Donc, vous voyez, l'herméneutique biblique suppose la foi, comme la théologie du reste. Hein. Une théologie sans foi, c'est plus de la théologie, c'est de l'histoire des religions, c'est de la philosophie de la religion, ou tout ce que vous voulez, mais c'est plus de la théologie. Alors, grand B, l'interprétation dans la tradition biblique. Alors, vous vous souvenez qu'on a vu que le phénomène de l'interprétation est courant dans la Bible, et on peut même dire qu'il est constitutif. Les textes bibliques ne sont pas seulement expliqués par les docteurs ou traduits, par exemple en araméen, en grec, comme on a pu le voir vers la fin de l'époque de l'Ancien Testament, mais ils sont continuellement actualisés, c'est-à-dire ils sont relus, retravaillés, complétés, selon les périodes que vit le peuple de Dieu. Et ça, on le voit clairement avec le livre de la sagesse, par exemple, dans la Bible, l'un des derniers livres de l'Ancien Testament. C'est vraiment une relecture actualisante de la sortie d'Égypte, de l'Exode, en fait. C'est toute la littérature que les Juifs appellent Targum ou Midrash, vous voyez. Un beau Midrash dans le Nouveau Testament, c'est quand saint Paul dit aux Corinthiens que le rocher qui accompagnait les Hébreux dans leur errance dans le désert, c'était le Christ. Hein, le rocher qui, frappé par le bâton, fait sortir l'eau. Et évidemment, en disant ça, il contemple le Christ crucifié avec l'eau qui sort du côté. Donc voilà, ça c'est une lecture midrashique, c'est-à-dire une actualisation pour la communauté chrétienne d'un texte sacré de l'Ancien Testament.